إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Donc je souhaite la bienvenue à tous les frères et à toutes les sœurs sur le salon Les Repères de la Sunna et on va donc continuer l'explication en langue française inshallah du livre intitulé من كنوز القرآن الكريم لشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. Donc on va continuer notre parcours dans la sourate Al-Baqarah. Sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire sourate la vache. Donc on avait déjà expliqué sourate Al-Fatiha, donc la sourate qui vient directement après par rapport à l'ordre du Mus'haf. C'est bien sûr Al-Baqarah. Le cheikh avait commencé à expliquer le premier verset et aussi le deuxième verset et quelques versets suivants. Et maintenant, donc, il va passer au verset numéro 16. Donc, comme on a dit, le cheikh, il prend des passages de chaque sourate. Il prend des passages de chaque sourate. Donc, un passage, bien sûr, il peut avoir un seul verset ou il peut avoir plusieurs versets. Et donc là, le prochain passage et le passage qu'on étudie maintenant, c'est en fait le verset numéro 16. Le verset numéro 16 de sourate أباش. يقول الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement et bien leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie et bien leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. Je redis le verset en arabe. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. En fait, ici, le terme, un des termes qui est employé, ou il y a plusieurs termes qui sont employés dans ce verset, c'est الضلالة. الضلالة. والضلالة, on dit donc الضلال والضلالة, c'est bien sûr l'égarement. C'est l'égarement. Un autre terme qui est employé dans ce verset, الهدى. Al-Huda, et Al-Huda, c'est bien sûr la guidance. C'est ce qu'on traduit en fait par la guidance ou le droit chemin. De façon générale, on traduit ça par la guidance, Al-Huda. Un autre terme aussi qui est employé dans ce verset, At-Tijara. At-Tijara, yani Tijara tuhum, At-Tijara. Ou At-Tijara, c'est quoi? C'est en fait le commerce. At-Tijara, c'est le commerce. Voilà pour les trois mots qui sont utilisés. Al-Balala, Al-Huda. والتجارة. يقول الشيخ في هذه الآية إخبار عن المنافقين بأنهم رغبوا في الضلالة ورضوها لأنفسهم وتركوا الهدى وأعرضوا عنه فخسروا هذا الذي رغبوا فيه وما ربحت تجارتهم فيه ولا يظفروا بالهدى الذي تركوه ولهذا قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Donc le cheikh nous explique ici que ce verset il est descendu sur qui? Sur les المنافقين, c'est-à-dire les hypocrites. Ce verset il est descendu sur les hypocrites. Et en fait, à travers ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit que ces gens-là, ils ont fait en fait un troc. Que ces gens-là, en fait, ils ont fait un commerce. Qu'ils ont fait un commerce. Et que ce commerce-là, ça s'est traduit en fait bil ce qu'on appelle al-mubadala. Al-mubadala, c'est-à-dire par l'échange. C'est un échange. Et donc, vous savez que at-tijara al-bay' du temps des Arabes, c'était bien sûr soit en payant avec cash, c'est-à-dire en payant avec de l'argent, contre en fait quelque chose, ou sinon c'était faire de l'échange. C'était faire donc de l'échange. Donc on voit en fait que le terme tijara ou le bair, c'est-à-dire le commerce, ça inclut en fait ces deux choses. Ça inclut ces deux choses, que ce soit en fait de l'argent, ou que ce soit avec ou l'échange de deux choses. Donc ici on voit qu'il y a un échange. C'est quoi cet échange? C'est l'égarement contre quoi? La guidance, contre la bonne voie. L'égarement contre la bonne voie. Allah al-Musta'an. Et le shir, à partir de là, il va nous expliquer, à partir d'ici, on voit que dans le verset, il est cité Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda. Donc ici il y a le ba qui est utilisé, bil-huda. Le cheikh va nous expliquer à partir de là que ce al-ba qui est utilisé ici, bil-huda, c'est en fait yaqul wal ba'u dakhilatun ala shay'il matruk, ala shay'il matruk. Wa hakadha kullu shay' kullu shay'in yushtara. فإن الباء في تدخل المتروك وهو الثمن ومن ذلك ما جاء في آية أخرى عن بعض الكفار مثل قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا تخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ça c'est في سورة البقرة et sur le verset 86. Donc le shir nous explique en fait que le ba ici, donc ça encore il revient souvent, le shir va revenir souvent à des règles qui sont en relation avec la langue arabe. Il nous dit en fait que le ba bil huda, ici c'est un ba donc qui est utilisé, le ba, il va rentrer en fait sur la chose qu'on lui rentre, où il est annexé à la chose qui est quoi, qui est délaissée, la chose qui va être délaissée. Donc ici dans le verset, qu'est-ce qui est délaissé? C'est la guidance. Elle est délaissée par quoi? Bien sûr par ad-dalala, c'est-à-dire elle est délaissée par pour l'égarement, ou elle est délaissée pour l'égarement. Donc en fait c'est un tijara, c'est un troc qu'il y a ici. Il y a un troc, un échange qui est fait. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il emploie le terme tijaratum. Il dit en fait que c'est un commerce qu'ils ont fait. C'est un commerce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va utiliser aussi ce même procédé linguistique. Yaqul fil hadith, kullu nasin yardu, faba'i'un nafsahu, famu'tiquha au mubiquha, au mubiquha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith authentique que tous les gens en fait partent de bonne heure le matin, ils partent dès le matin. Et qu'à ce moment-là, durant la journée, فَبَائِعُونَ, c'est-à-dire qu'ils vont vendre. Qu'est-ce qu'ils vont vendre? Ils vont vendre leur âme. Ils vont vendre en fait leur âme. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme فَبَائِعُونَ, qui vient bien sûr du terme al-bay', فَبَائِعُ وَإِسْمُ الْفَاعِلِ, c'est-à-dire celui qui vend, celui qui commerce. Donc ça vient du terme al-bay', qui est le commerce. فَبَائِعُ النَّفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا, c'est-à-dire فَمُعْتِقُهَا, c'est-à-dire qu'il va soit la sauver, donc il va échanger son âme contre quoi? Bien sûr contre la guidance, et pour atteindre en fait et pour gagner le paradis. أَوْ مُوبِقُهَا, ou sinon مُوبِقُهَا, il va la faire tomber bien sûr dans les abîmes des ténèbres, et donc il va vendre son âme pourquoi? Pour l'égarement. Il va vendre son âme pour l'égarement. Donc en fait c'est aussi une métaphore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé dans ce hadith. Et on voit que le terme qu'il a utilisé, faba'irun, et ici le terme qu'il a utilisé, Allah subhanahu wa ta'ala, tijaratuhum, et c'est donc le commerce, et c'est donc il y a ici en fait achat, et il y a aussi mubadala, c'est-à-dire il y a échange, l'échange d'une chose par une chose. Allah al-musta'an. Dans le verset qui nous est cité, donc le cheikh nous a expliqué donc que le ba ici il rentre en fait dans la chose qui est délaissée. Al-ba ou dakhila, c'est-à-dire qu'il va précéder la chose qui a été délaissée. Ici, c'est bilhuda, donc c'est la guidance. Il nous donne d'autres exemples du Coran, le shir, pour qu'on comprenne en fait. Il nous rappelle donc le verset que je vous ai cité, qui est le verset 86. Ulaika alladhina ashtaraw al-hayata ad-dunya bil-akhirah, fala yukhaffafu anhum al-'adhab wa lahum yunsarun. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future, contre la vie de l'au-delà. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, ils ne seront point secourus. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Donc le terme ici qui est employé, ishtarul hayat dunya bil akhirah. Donc bil akhirah, on voit que le bas il est rentré dans quoi? Dans la chose qui va être délaissée. Al akhirah, donc c'est l'au-delà, la vie de l'au-delà. Ils ont délaissé, subhanallah, la vie de l'au-delà pour cette vie d'ici-bas, cette vie éphémère qui va se terminer très bientôt. Et lorsqu'on sera dans l'au-delà, on comptera les jours qu'on a vécu dans cette ville ici-bas comme quelques jours, faqat. Comme quelques jours, peut-être quelques heures, c'est tout. Ce sera un vague souvenir en fait de quelques heures, quelques jours. Ces gens-là, ici, dans le deuxième verset qu'on a cité, c'est à propos de certains kuffars, de certains mécréants. Alors que le verset que l'on est en train de parler, qui est de Surat al-Baqarah, ici, c'est pour al-Munafiqin. Donc que ce soit les hypocrites ou que ce soit les mécréants, ils sont en fait dans le même sac. C'est-à-dire qu'ils ont fait un échange, qu'ils ont fait un commerce, ces gens-là. Et ce commerce-là, c'est quoi? C'est le fait d'avoir échangé la guidée ou la guidance, et le fait d'avoir échangé cette vie ou d'avoir échangé la vie de l'au-delà contre quoi? Contre la vie d'ici-bas. Bil-akhira. Donc ici, bil-akhira. Il nous saute encore un autre exemple, cher. فقول الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Ça c'est surat al-Baqara aussi, c'est encore surat al-Vache. La Vache c'est le verset 175. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الاشتراء ici c'est bien sûr le fait d'acheter. اشتروا الضلالة بالهدى, où ils ont acheté Naam Abdalala, c'est-à-dire qu'ils ont échangé cette guidance contre quoi, hein? Contre l'égarement. Allah al-Musta'an. Et une parole qui, en fait, nous fait comprendre que ce qu'ils ont fait, ces gens-là, c'est un commerce. Mais que ce commerce-là, c'est un commerce bi-khasara, c'est-à-dire qu'ils sont perdants dans ce commerce. C'est un commerce à perte. Wal-adhaba bil-maghfira. Wal-adhaba bil-maghfira. C'est-à-dire le châtiment contre quoi? Contre le pardon. Allah al-Musta'an. Ils ont échangé le châtiment contre le pardon. Le pardon d'Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi on voit Al-Adhaba bil-Maghfira. Le bas il rentre dans. Il précède quoi? Al-Maghfira. Donc la chose, Al-Shay wal-Matruk. La chose qui est délaissée. Al-Adhaba bil-Maghfira. Donc le châtiment contre le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Qu'est-ce qui leur fera supporter donc le feu après cela? Allah musta'an. Il nous donne encore un dernier exemple, Shir, rahimallah, pour expliquer toujours que Al-Ba rentre en fait sur la chose qui va être délaissée. Et que cette chose qui est délaissée va être bien sûr moindre que la pour laquelle on a en fait délaissé cette chose-là. يَقُولَ اللَّهُ عَزَوْ جَلْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Donc encore ici il y a un échange qui est fait, mais sur ce verset c'est le verset qui est descendu sur Bani Israël, et vous savez bien sûr ce qui s'est passé avec Moussa. Et à partir de là Moussa donc il leur a dit qala atastabdiluna alladhi wa adna billadhi wa khair. Donc le sens du verset est rappelez-vous quand vous dites, c'est-à-dire Bani Israël, quand vous dites ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture, prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail ou blé, c'est-à-dire qu'on peut traduire le terme par ail aussi par blé, ses lentilles et ses oignons. Il vous répondit voulez-vous échanger, c'est-à-dire Allah Azzawajal, voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Donc ici on voit que le bas il est rentré dans quoi? Billadhi wa khair. Donc c'est la chose ash-shay'ul matruk, billadhi wa khair, ce qui est meilleur. Et vous avez délaissé ce qui est meilleur pourquoi? Pour ce qui est moindre. Donc encore ici la règle elle est appliquée. La règle elle est appliquée que al-ba'u dakhiratun 'ala ash-shay'il matruk. Wa hakadha kama qala ash-shaykh kullu shay'in yushtara. Inam. Donc ça c'est surat al-Baqara aussi, c'est le verset 61. يقول الشيخ فإن الباء داخلة عن المتروك, une fois de plus, والمن والسلوى. Donc المن donc c'est ce qui est cité aussi dans les versets d'avant. Ils disent la plupart des savants ou plutôt ceux en fait qui ont rassemblé toutes les paroles de ceux qui ont fait l'exégèse du Coran. يقول كما قال ابن كثير كل ما امتنى الله عليه من طعام وشراب. Ça c'est المن. C'est en fait tout ce qu'Allah Azzawajal leur a donné comme en faveur pour ce qui est de la nourriture et de la boisson. Donc en fait, vous savez que par rapport à Al-Man, il y a eu plusieurs explications, plusieurs interprétations par rapport à ce terme. Et Ibn Kathir les a en fait rassemblés et il nous dit en fait cette parole qu'on vient de citer. Wasalwa. Salwa, c'est en fait c'est une sorte d'oiseau qui est en fait voisin de la perdrix. Certains traduisent par le terme la caille. Al-Kulihal, c'est ce qu'Allah Azzawajal leur avait fait don. C'est ce qu'Allah Azzawajal leur avait fait don à Bani Israël. Et eux, en fait, ils ont voulu des choses encore. Ils ont voulu des choses qui leur paraissaient meilleures. Alors, à ce moment-là, Moïse leur a dit Atastabdiluna alladhi wa adna billadhi wa khair. Taïb. Le chien, ensuite, il va passer à un autre passage du Coran. Et qui est le verset suivant. Donc, on est bien sûr toujours dans Surat la Vache. C'est le verset 21 et 22. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ça c'est le verset 21 et 22. Verset 21 et 22. Naam. Donc le sens, la traduction de ce verset est la suivante. C'est lui qui vous a fait, ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Ici, en fait, Allah Azzawajal, subhanahu wa ta'ala, va employer un procédé qui va revenir beaucoup dans le Coran. C'est ce qui va en fait mettre en évidence le shirk. Il va mettre en fait en évidence cela. C'est qu'Allah Azzawajal, dans le Coran, il montre aux kuffar, il montre aux mushrikoun, il montre en fait aux mécréants, il montre aux polythéistes et tous ceux qui ne croient pas en lui, il leur montre, ou ceux qui croient en lui et lui associent, il leur montre en fait que si vous, vous acceptez et vous reconnaissez Tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire que vous reconnaissez l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa souveraineté. Et ça, c'était le cas de qui? De Quraysh. C'était le cas de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Pourquoi? Est-ce qu'il les a combattus parce qu'ils n'attestaient pas l'unicité d'Allah Azzawajal dans la souveraineté? Non, parce qu'il l'a testé. Quraysh a testé cette catégorie d'unicité. Et les versets du Coran qui relatent cela et qui nous prouvent cela sont beaucoup, multitude de versets qui nous prouvent cela. Et donc à partir de là, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans ce verset? Il dit en fait que si vous reconnaissez que je suis votre créateur, que je suis le créateur de ceux d'avant vous, que vous reconnaissez que j'ai placé la terre comme un lit pour vous, que j'ai placé aussi le ciel comme une voûte, et que j'ai fait descendre de ce ciel tout ce qui est sorti comme fruit, etc., comme une pourvoyance pour vous, alors fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu lillahi andada. Alors ne placez pas des semblables pour Allah, ne placez pas des semblables, yani ne lui cherchez donc pas des égaux, des semblables. Et le terme ici andada, c'est le pluriel de anid. Niddun. Et niddun au niveau de la langue arabe, c'est en fait le semblable. C'est le semblable. Donc lorsqu'on veut mettre une personne semblable à une autre, yani, on appelle que hava niddu, c'est-à-dire ça c'est son semblable. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal il emploie en fait ce terme andada, qui est le pluriel de nid. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Donc si vous reconnaissez cela et si vous apercevez que réellement Allah Azza wa Jal il est le Seigneur, c'est-à-dire que c'est à lui qu'appartient la souveraineté, alors automatiquement cela implique que vous reconnaissez Tawhid al-Uluhiyya, qu'Allah Azza wa Jal il est le seul à être adoré, qu'il est le seul à être adoré, Tawhid al-Uluhiyya. Et donc ça, ce procédé est utilisé beaucoup dans le Coran, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il leur montre qu'ils croient en fait dans ce Tawhid al-Rububiyya et qu'ils l'acceptent et qu'ils le reconnaissent, alors cela implique, donc c'est une implication. C'est une implication. Donc, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa souveraineté, le fait de reconnaître cette catégorie, va impliquer quoi? Va impliquer la reconnaissance de quoi? Et l'attestation du Tawhid al-Uluhiyya, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, dans quoi? Dans son adoration. Et ça, dans le Coran, le cheikh va nous citer encore un exemple, et ça, dans le Coran, c'est beaucoup. Les versets qui sont de ce style sont nombreux. Ça, c'est la première chose, c'est l'une des choses que le shir va nous expliquer. Avant cela, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le shir, rahmatullah alayhi, ou hafidhahullah, il nous dit tout simplement que dans le mushaf, c'est-à-dire dans le Coran, c'est le premier ordre qui est venu d'Allah Azza wa Jal. Le premier ordre. Si maintenant on regarde surat al-Fatiha, yani surat al-Fatiha ou surat al-Baqara, qui sont les deux premières, les deux premières sourates, qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans le Coran? On s'aperçoit que le premier ordre qui vient, c'est quoi? C'est, ça va être ce verset. Et c'est quoi cet ordre? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit « Ya ayyuhannas » c'est-à-dire, et comme l'explique Ibn Abbas, il dit bien sûr, lorsqu'on entend Ya ayyuhan nas ou Ya ayyuhal ladhina amanu ou Ya ayyuhal mu'minun, etc., automatiquement après il va venir soit un ordre ou soit il va devenir quoi, une interdiction. Soit Allah Azza wa Jalla nous ordonne de faire quelque chose ou nous interdit de faire quelque chose. À partir de là, on voit qu'ici Ya ayyuhan nas, c'est le premier nida, c'est-à-dire que ici il va avoir Allah Azza wa Jalla appelle les gens. Il appelle les gens à quoi? Et ça, le premier ordre qui est venu dans le Coran, c'est quoi? Wa'ibad, comme il dit le chef, wa'ibadatullah. Wa a'zamu ma'murin bih. Et donc, vu que c'est la première chose qui a été ordonnée dans le Coran, c'est en fait la chose la plus grande, la chose la plus grandiose, la chose la plus immense, c'est-à-dire l'obligation qui est la plus grande. Dans la religion musulmane, dans la religion islamique, l'obligation la plus grande, la plus grande chose, c'est quoi? C'est d'adorer Allah Azzawajal lui seul. C'est ce que Allah Azzawajal nous a ordonné. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal a envoyé ses prophètes. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal a fait descendre ses livres. Pourquoi? Li ajli tawhid al-uluhiyya, qui est bien sûr l'unicité d'Allah Azzawajal dans l'adoration. Qu'on rend Allah Azzawajal unique dans cette adoration. Qu'on lui adore, qu'on adore que lui et qu'on délaisse tout ce qui est en dehors de lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit que c'est le premier ordre qui est descendu dans le mushaf. C'est-à-dire le premier ordre, lorsqu'on lit bien sûr le mushaf, en partant de l'al-Fatiha, on voit que c'est le premier ordre qui est apparu dans le Coran. Et c'est bien sûr l'ordre le plus important, celui d'adorer Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il dit « Wa ala awwali nahin naha Allahu anhu fih, wa wa shirku billah, wa ittikhadhu al-andadi lahu, wa wa a'zamu manhin an. » Il nous dit de même, après qu'il y a eu cet ordre, il va avoir une interdiction. Et cette interdiction, c'est donc la première interdiction qui vient dans le Mushaf. C'est la première interdiction qui vient dans le Coran, c'est cette interdiction et qui est quoi? Qui est l'associationnisme. Donc le contraire, bien sûr, du tawhid, le contraire du fait d'adorer Allah Azza wa Jalla sans rien lui associer, et bien sûr qui est ashirk, qui est bien sûr l'associationnisme, le polythéisme et le fait de lui donner des semblables. Le fait de lui donner des semblables, c'est-à-dire des semblables dans son adoration, al-andad. Donc on voit ici le premier ordre et la première interdiction. Et que cette interdiction, bien sûr, c'est la plus grande des interdictions. La plus grande des interdictions. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est par cette interdiction, si la personne l'a fait, elle ne pourra jamais rentrer au paradis. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui associe. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, c'est de par cette importance de cette interdiction que ça a été la première interdiction qui vient en fait dans le Coran, fil mushaf. Et donc, pour revenir à cela, la première obligation c'est u'budu rabbakum. U'budu. Ici on voit que le verbe il est à quoi? Il est à l'impératif. Fi'lu amr, u'budu rabbakum. Ça c'est l'obligation. Et ensuite l'interdiction, fala taj'alu lillah, fala la nahyuna. C'est pour ça ensuite, bien sûr, fala taj'alu la nahy, c'est-à-dire le la qui est utilisé ici, le nom, c'est un nom qui en fait implique l'interdiction. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Et le cheikh va nous dire en fait que ces deux versets u'budu rabbakum et le deuxième verset, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ, c'est en fait l'explication de La ilaha illallah, kalimat al-tawhid, l'explication de La ilaha illallah. Il nous dit donc, dans le verset, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ, c'est l'explication en fait, La ilaha, il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration. La ilaha, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ, ne donnez pas à Allah Azza wa Jal des égaux, des semblables. Donc bimana la ilaha wa qawluhu u'budu rabbakum bimana illallah. Bimana illallah, c'est-à-dire adorer seul votre Seigneur ou adorer votre Seigneur, c'est ma'na la ilaha illallah, sauf Allah. Il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration sinon Allah, illallah u'budu rabbakum. Et donc le shirk, il revient ensuite sur cette où il nous explique la règle que j'ai dit, la première règle qui est la plus importante par rapport à ce verset. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shirk, donc en revenant sur le fait que le fait d'approuver l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans sa souveraineté implique que l'on reconnaisse l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans sa dans son adoration. C'est pour ça qu'il dit le shirk, kama annahu la khaliqa illallah wa la raziqa illallah fa innahu la ma'buda haqqan siwah. Il nous dit le shirk, comme il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah, le fait que l'on dise la khaliqa illallah, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas d'autre créateur sinon Allah. Et il nous dit wa la raziqa illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre pourvoyeur sinon Allah. Tout cela bien sûr c'est rentre dans tawhid, tawhid al-rububiyya, l'unicité d'Allah azza wa jalla dans sa souveraineté. La khaliqa illallah wa la raziqa illallah fa innahu idhan fa innahu, ce ça bien sûr ça implique fa innahu la ma'buda haqqan siwa, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre être adoré en dehors de lui. Ça implique tout simplement, si maintenant tu sais que celui qui te nourrit de façon journalière, celui qui t'a créé, celui qui a créé ton père, ta mère, ta grand-mère et tes ancêtres, c'est pas celui qui mérite d'être adoré? Tout simplement cette question qui est posée, cette question qui est posée tout le long en fait du Coran, pour faire réagir ces gens, pour leur faire comprendre en fait qu'ils sont à côté de la plaque, qu'ils sont en fait dans le faux, qu'ils ont adoré des êtres qui ne les ont même pas créés, qui ne leur donnent même pas leur pourvoyance. Alors pourquoi eux, ils méritent cette adoration? Ils méritent l'adoration, celui qui t'a créé, celui qui t'a donné la pourvoyance, celui qui te protège du mal, si quelqu'un te fait du mal. C'est celui qu'il faut que tu adores, tout simplement. Et non. C'est pour ça qu'il dit le shir, « وَلِهَذَا يَتِي كَثِيرًا فِي الْقُرْآنِ تَقْرِيرُ التَّوْحِيدَ الَّذِي أَقَرَّوا بِهِ لِإِلْزَامِهِمْ بِالتَّوْحِيدَ الَّذِي جَحَدُوا. Et ensuite, il va nous citer un autre verset encore, le Cheikh Rahimullah. Allah Azza wa Jal, donc c'est un long verset, ou plusieurs versets bien sûr, et qui vont encore nous prouver la règle qu'on a citée, et qui va encore nous démontrer en fait le procédé qu'Allah Azza wa Jal utilise pour en fait argumenter contre les gens qui lui ont associé, alors qu'ils ont reconnu en fait l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa souveraineté, qu'ils ont reconnu qu'il est le Seigneur en toute vérité. Yaqul Allah Azza wa Jal, Amman khalaqa as-samawati wal-ard wa anzala lakum min as-sama'i ma'an fa anbatna bi hadaiqa dhata bahjatin ma kana lakum an tunbitu shajaraha a ilahum ma'allah bal hum qawmun ya'dilun amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilala anhara وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Donc ici, dans ce verset ou dans ces versets, Allah Azza wa Jal va tout simplement faire apparaître la générosité, cette générosité qu'il leur a donnée, c'est-à-dire tout le bien qu'il les a donné à travers sa générosité et à travers les bienfaits qu'il leur a donnés. Il dit Allah Azza wa Jal, dans le sens donc du verset, n'est-ce pas celui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté, subhanallah. Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre, y a-t-il donc une divinité avec Allah? Vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre, alors qu'Allah Azza wa Jal, lui, l'a fait descendre avec l'eau qu'il a fait descendre du ciel, alors qu'il a créé le ciel et la terre. Regardez en fait, Tassal-Soulan, il a créé les cieux et la terre. À partir de là, il a fait descendre du ciel une eau. Et à partir de cette eau, il a fait pousser des jardins pleins de beauté, comme on peut admirer à travers le monde. Alors que vous les créatures, vous n'étiez nullement capable de faire pousser leur arbre, simplement leur arbre. Alors à partir de là, ça c'est la souveraineté d'Allah. Ça c'est al-rububiyya. À partir de là, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Na'am, a'ilahum ma'allah. A'ilahum ma'allah. C'est-à-dire, y a-t-il donc une divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala? Lui qui a fait tout cela pour vous, dans votre intérêt. Imana afi'ikum. Est-ce que vous, maintenant, vous allez lui donner des associés? Est-ce que ça, c'est logique? Est-ce que ça, c'est compréhensible? Belhum qawmun ya'dilun. Belhum qawmun ya'dilun. Non, mais ce sont des gens qui lui donnent des égaux. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour? La terre, cette terre qu'il a aplanie, qu'il a placée pour qu'on puisse en fait se reposer, placer des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers. Une séparation entre les deux mers. Bien sûr, les deux mers, c'est les deux masses d'eau qui sont l'une des sources, l'une douce et l'autre salée. Ça aussi, c'est encore un signe que nous donne Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il donc une divinité avec Allah à partir de là? Alors que c'est Allah azawajal qui a fait cela. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. La plupart d'entre eux ne savent pas. Bal aktharum la ya'lamun. Ensuite, n'est-ce pas celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? À l'angoissé lorsqu'il invoque. Al-muttar, celui qui est angoissé ou celui qui en fait qui est, dont un mal l'a atteint ou qui est en fait dans une impasse. Alors, à ce moment, au moment où il l'invoque, c'est pas lui, Allah azawajal, qui va répondre. Hein, qui va répondre à son invocation et qui enlève ce mal, qui enlève le mal dont il a été touché et qui vous a fait succéder sur la terre génération après génération, subhanallah. C'est Allah qui nous a fait succéder génération après génération. Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Donc à partir de là, est-ce qu'il y a une divinité avec Allah, subhanahu wa ta'ala, que vous associez? C'est rare que vous vous rappeliez. Ensuite, n'est-ce pas celui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer alors qu'on était égarés? Si Allah azawajal ne nous avait pas guidés, nous serions égarés. Comme il nous a guidés sur cette guidance, comme il nous a guidés sur ce droit chemin, qui est en fait la religion de l'islam. N'est-ce pas celui qui vous a guidés dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme une bonne annonce? C'est-à-dire lorsque le vent il arrive, c'est la pluie qui va venir, et à partir de là, l'eau va descendre, et à partir de là, les légumes, l'herbe, etc. vont pousser. Donc comme une bonne annonce précédant sa grâce, la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de là, y a-t-il donc pas une divinité avec Allah? Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Allah est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Allah azawajal subhanahu wa ta'ala, il est bien au-dessus. Ta'ala Allahu amma yushirkun, avec tout ce qu'il nous a dit. Et Allah azawajal, il continue son argumentation. Fayaqul, n'est-ce pas celui qui commence la création? Celui qui a commencé la création, qui a créé toute chose. N'est-ce pas celui qui commence la création puis la refait, yani yu'idu, et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Ça aussi, Ar-Razzaq, Allah Azza wa Jalla, c'est celui qui pourvoit. À partir de là, y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dit, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Après cela, après tout ce qu'on a argumenté, tout ce qu'on vous a prouvé, et qu'on vous a prouvé qu'Allah Azza wa Jalla était bel et bien le souverain, donc que cela impliquait qu'il fallait lui vouer un culte exclusif et ne pas lui associer quoi que ce soit à ilahum ma Allah. Allah azawajal nous dit: "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Apportez vos preuves, les preuves que ceux que vous adorez en dehors de lui sont réellement ou méritent réellement l'adoration. Est-ce que ces gens-là que vous adorez, est-ce que ces statues que vous adorez, etc., sont capables de faire tout ce qu'Allah azawajal a fait? Impossible. C'est impossible. Alors à partir de là, Allah Azzawajal, il les met devant le fait accompli. Apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Ensuite, le Shia, rahimallahu ta'ala, il termine en fait en rappelant un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rappelle en fait que l'associationnisme, que le polythéisme est l'un des plus grands péchés. Yaqul lamma sala Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qailan, أي ذنب أعظم عند الله؟ أي ذنب أعظم عند الله؟ أجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أخرجه البخاري ومسلم. Ce hadith qui est clair et net et qui est rapporté par les mêmes Bukhari et Muslim, lorsque Ibn Mas'ud a demandé, رضي الله تعالى عنه, qu'Allah l'agrée, il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il lui a dit: quel est en fait le péché le plus grand auprès d'Allah Azzawajal? Celui qui est le plus énorme, celui qui pèse le plus auprès d'Allah Azzawajal, Ajabahu sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu: que tu mettes ou que tu places pour Allah Azzawajal un égal. Un égal. Donc on voit ici le terme niddan, qui est bien sûr son pluriel, qui est andada, comme c'est utilisé dans le verset qu'on a étudié, wa huwa khalaqak. C'est-à-dire que tu mettes ou que tu places pour Allah Azzawajal un associé, que tu places un égal que tu vas adorer comme tu, aurais adoré, comme tu devrais adorer Allah Azzawajal uniquement, alors que lui, il t'a créé. Donc on voit ici aussi, dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Wa wa khalaqak », c'est-à-dire c'est lui qui t'a créé. Donc ça c'est « Tawhid al-Rububiyya ». Et donc cela en fait implique, ça implique automatiquement que tu dois en fait l'adorer. Ensuite le shia, rahimallah, il passe à un autre passage du surat al-Baqarah, c'est le verset 23. « Fayaqul le shia, rahimallah, أو حفظه الله قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Ça c'est le verset 23. Le verset 23. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم. Et donc, le sens du verset suivant, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Si vous avez un doute, si vous avez un doute, raib, donc le terme ici raib, fi raibim, in kuntum fi raibim. Et ça, c'est le premier verset qu'on a vu, qui est, où le terme aussi également est employé à raib. Et on a vu que c'est ash-shak. Raib qui est en fait ash-shak. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire. Mimma nazalna ala abdina. Nazalna, bien sûr, c'est quoi? Ce qu'on a fait descendre, c'est la révélation. Al-wahi, c'est ici le Coran. Le maqsoud aussi, le Coran. Le Coran. Que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable. Que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان إعجاز القرآن بيان إعجاز القرآن وأن الذي نزل عليهم هم أهل الفصاحة والبلاغة تحدوا بأن يأتوا بسورة من مثله وأقصر سور أو سور القرآن سور العصر والكوثر والإخلاص ومع ذلك لم يستطيعوا وقد كان التحدي حصل بالإيتيان وقد كان التحدي حصل بالإيتيان بمثله ثم بعشر سور مثله ثم بسورة من مثله وهذا التحدي مستمر وقد أخبر الله بحصول عجز الجن والإنس مجتمعين على إيتيان بمثله. نعم. Le shir, tout simplement, et dans ce verset, il met en évidence quoi? Allah Azza wa Jal met en évidence devant toute l'humanité Al-Irjaz, c'est-à-dire Irjaz al-Qur'an, c'est-à-dire le miracle du Coran. Et c'est là le miracle du Coran. C'est exactement ici que le Coran est un miracle. Ce miracle, c'est quoi? C'est que le Coran est descendu sur un peuple qui était des gens, en fait, de l'éloquence et de la littérature. C'est des gens qui étaient, bien sûr, les Arabes, qui, en fait, avaient la perfection de cette langue. Ils perfectionnaient cette langue à travers, en fait, leur poésie, etc. Ils avaient une maîtrise totale de cette langue arabe au niveau littéraire, au niveau de l'éloquence. Et à partir de là, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a fait descendre son livre dans cette même langue, dans la langue dans laquelle la langue qu'il maîtrisait, et qu'il leur a ensuite lancé un défi, et que ce défi qui est ici relaté dans ce verset, qui est de fait de venir avec une seule sourate. Et comme le Cheikh nous dit, les plus petites sourates, c'est sourate al-Asr, Al-Kawthar, Al-Ikhlas, sont les plus petites sourates du Coran. Et à partir de là, Al-Kuffar, Al-Mushrikoun, Ahlul Kitab, Hatta Al-Jinn, Minhaoula, tout ceci en fait n'ont jamais pu venir avec une sourate, et même on dit avec un seul verset du Coran. Même avec un seul verset du Coran, ils n'ont même pas pu venir avec un seul verset du Coran. Wat-tahaddi mustamir, c'est-à-dire que ce défi, il est continuel. Il est continuel. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, à travers son Coran, lance ce défi de façon continuelle à tous les gens de la littérature, à tous les gens de l'élocution arabe. Et ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, et ils ne pourront pas, de toute façon, ils ne pourront jamais venir avec cela. Et même si, comme il nous dit le shir, même si, hein, il va nous citer le verset, même si les djinns et même si les hommes seraient tous concertés, tous réunis entre eux pour venir avec un Coran, comme ce Coran qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah haqiqatan, qui est la véritable parole d'Allah, comme c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et qu'Allah azza wa jal, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Ça c'est في سورة الإسراء. C'est le verset 88. C'est le verset 88. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable même s'ils se soutenaient les uns aux autres. Et comme le shir bien sûr précise ici, Allah Azza wa Jal ici, c'est, il parle du Al-Qur'an, c'est-à-dire le Coran tout entier. Et c'était le début en fait du défi. Ensuite, ce défi-là, il est en fait descendu à quoi ? À 10 sourates. Et ensuite, il est descendu en dernière étape à une sourate. Et le shir va nous préciser, Hafidhahullah, il nous précise le shir en fait quoi ? Que même les gens, et à titre d'indication bien sûr, ça c'est quelque chose qui est connu, c'est qu'en fait Allah Azza wa Jal, lorsqu'il donne une preuve et lorsqu'il donne en fait un miracle à son prophète, ce miracle en fait est en harmonie avec ce que maîtrisaient les gens de leur temps, c'est-à-dire du temps des prophètes. Donc on voit en fait que Isa, il pouvait en fait refaire vivre le mort, il pouvait en fait guérir le lépreux. Et vous savez qu'au temps de Isa, les gens en fait avaient une maîtrise de la médecine, une maîtrise relative, mais ils avaient une maîtrise de la médecine. Donc Allah Azza wa Jal est venu en fait avec ce miracle et est venu en fait avec cette preuve qui prouve en fait la prophétie du prophète Jésus, alayhi salam. Donc la même chose que maîtriser ces gens-là. Ce qui est de Moïse, la concurrence entre les sorciers. Donc c'était la sorcellerie qui prévalait dans ce temps-là. C'est-à-dire que les gens, la mode et ce qu'ils maîtrisaient, c'était la sorcellerie. Et donc à partir de là, Allah Azza wa Jal a donné à son prophète Moïse, qu'est-ce qu'il lui a donné ? En fait, il lui a donné le miracle de cela. C'est-à-dire qu'il a été capable de concurrencer les plus grands sorciers de l'époque. C'est pour ça que Pharaon les avait bien sûr convoqués. Ils avaient convoqué les plus grands sorciers et ils n'ont pu, ces sorciers-là, ils n'ont pu faire face au défi qui a été lancé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez l'histoire, et donc ils ont reconnu qu'Allah azza wa jal, il était bel et bien le Seigneur de Moïse et de Haroun. Et ils se sont même prosternés, subhanallah. Et donc, pour ce qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son temps là, ce qui était à la mode bien sûr, c'était la poésie, c'était la langue arabe, et les gens se lançaient des défis, ils se lançaient des défis par rapport au poème, qui était le plus grand poète, etc. Ils avaient une maîtrise totale de la langue arabe, et à partir de là, Allah Azza wa Jal va lancer donc son défi, il va faire descendre son Coran en une langue arabe claire. Et donc on voit ici la force, on voit donc la force en fait de ce défi. Et à partir de là, comme nous répète le shir, il nous dit en fait que parmi, ou à cette époque-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui étaient des grands poètes et qui maîtrisaient la langue arabe, comme il va nous citer un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu. Mada yaqul, ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Yaqul sami'tu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqra fil maghrib bit-tur falamma balagha hadhihi al-aya أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ماذا قال؟ كاد قلبي أن يطير. سبحان الله. كان يقول كاد قلبي أن يطير. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Jubair ibn Mut'im, et bien sûr il a entendu ce vers lorsqu'il avait été emprisonné lors de la bataille de Badr. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récitait un verset du Coran. Et ici, en l'occurrence, même deux ou trois versets du Coran. Et bien sûr, Jubair ibn Mut'im, c'est un grand min ahlil fasaha wal balagha. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsqu'il a entendu ce verset, ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Chouf, subhanallah. Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Ça c'est un verset, subhanallah, surtout en fait pour ceux qui mécroivent même jusqu'à la souveraineté d'Allah Azza wa Jal, comme les athées. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. C'est ou vous avez été créés à partir du néant, et ça c'est impossible, ou vous êtes les créateurs, et ça c'est impossible. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal, quand il il le fait descendre sur son prophète, ce verset, il le fait descendre bien sûr en langue arabe. Et en plus, il y a bien sûr toute al-fasaha al-balagha. Et donc, cet argument qui est lancé à tout être, ou qui est lancé contre tout être humain, plus précisément ceux qui ont mécru en lui, c'est un argument bien sûr qui va être accompagné de l'éloquence parfaite. Pourquoi ? Parce que hada min kalam illah, ça c'est la parole d'Allah. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Allahu akbar. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs, ou ont-ils créé les cieux et la terre? Am khalaqu as-samawati wal-ard bal la yuqinun. Mais ils n'ont plutôt aucune conviction, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de conviction. Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur? Am indahum khaza'in rabbik am humul musaytirun. C'est-à-dire possèdent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les maîtres souverains? Ou sont-ils eux les maîtres souverains? Humul musaytirun. Au moment où il a entendu ce verset, qu'est-ce qu'il dit, Jubair ibn Mut? Une expression en fait qui prouve que ce verset est rentré dans son cœur directement. Mon cœur a failli s'envoler. Alal adiqala. Il a dit que son cœur a failli s'envoler au moment où il a entendu ce verset-là. Kada qalbi an yatir. C'est-à-dire tellement il a été impressionné et que son cœur il a failli s'envoler. Subhanallah. Et c'est pour ça aussi qu'il nous rappelle, Jubair, dans un des hadiths aussi, il nous a dit « وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ الْإِمَانُ فِي قَلْبِي » C'est-à-dire, c'est la première fois que la foi est rentrée dans mon cœur. Donc ça, en fait, c'est une preuve claire et nette. « Shahada », c'est un témoignage d'un des grands compagnons. Le shi'a, rahimullah, il va nous expliquer, j'ai toujours l'habitude de dire « rahimullah », on peut dire en fait « rahimullah » par une personne, même si elle est vivante. Même si elle est vivante, on peut dire en fait « rahimullah », mais là, en principe, on dit « hafizahullah ». Pour bien en fait faire la distinction entre la personne qui est morte et la personne qui est encore vivante. Et moi, j'ai toujours l'habitude de faire des livres de personnes qui sont mortes. C'est pour ça que j'ai cette habitude. Taïb. وَمَا جَاءَ عَنَ الظَّهْمِ الْمُعْتَزِلِ. C'est-à-dire que le chien maintenant, il va parler en fait d'une personne qui est un Mu'tazili et qui vient en fait expliquer ce défi-là. Il fait une réfutation, c'est-à-dire qu'il va réfuter la parole que dit cette personne qui est un Mu'tazili. Donc vous connaissez la secte des Al-Mu'tazila. Qu'est-ce qu'il dit le chien? يَقُولْ مِنْ قَوْلَ بِصَرْفَ. Et qu'est-ce qu'il veut dire par ce terme? Sarfa, c'est un terme bien sûr technique, as-sarfa. Il veut dire tout simplement que en fait les Arabes, ils étaient capables de venir ou d'apporter quelque chose qui est semblable au Coran. C'est ce qu'il dit lui. Mais il dit, lorsque au moment où Allah Azza wa Jalla a fait descendre en fait, à travers certains versets, il a fait descendre ce défi, il a lancé ce défi aux Arabes, alors il a dit, à ce moment-là, ils n'ont pas pu venir, un Coran. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla les a empêchés qu'ils viennent avec le Coran. Ajazu, c'est ce qu'il veut dire en fait. Et il nous dit le shirk hava batil. Ça c'est complètement faux de dire cette parole-là. Le fait de dire que les Arabes avaient la capacité de venir avec quelque chose qui est semblable au Coran, mais qu'au moment où le défi est descendu, ils n'ont pas pu, c'est-à-dire qu'Allah les a empêchés de faire cela, et qu'ils n'ont pas pu en fait, ils n'ont pas pu écrire un Coran comme le Coran qui est entre nos mains. Il dit le shirk que cette parole-là, qui est bien sûr la parole d'un innovateur, Mu'tazili, il nous dit en fait que c'est. Que ce n'est pas que c'est faux, c'est totalement faux. S'ils n'auraient pas pu, Taïb, si on accepte cette parole-là, ou si en fait les Arabes n'auraient pas pu en fait venir avec, ou ils n'auraient pas pu écrire en fait ce Coran, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu tout simplement venir avec des choses qu'ils avaient déjà écrites dans le temps de, dans le fil Jahiliya, c'est-à-dire avant la descente du Coran. Ils auraient pu venir. C'est des choses qu'ils avaient d'Awanou, c'est-à-dire des choses qu'ils avaient écrites, ils auraient pu venir avec cela. Hein, et avec les paroles avec lesquelles ils se faisaient concurrence dans les aswaq, dans les marchés, comme vous savez, au niveau de la poésie, c'est-à-dire qu'ils faisaient des concours de poésie devant les gens dans leur marché, ils auraient pu venir avec cette parole-là, mais à ce moment-là, on voit en fait que même s'ils seraient venus avec cette parole-là, elle n'avait rien à voir avec la parole du Coran. Elle n'avait rien à voir avec la parole du Coran, elle ne pouvait en fait aller à l'encontre de la parole du Coran, elle ne pouvait être équivalent à cette parole-là. Donc le shir, il fait en fait une réfutation par rapport à cela, c'est-à-dire qu'ils auraient pu revenir à ce qu'ils avaient déjà écrit. Ils avaient déjà écrit ce qu'ils avaient déjà fait, et malgré ça, ils n'ont pas pu, même ce qu'ils avaient déjà écrit, ce qu'ils avaient déjà dit, ce qu'ils avaient déjà fait, ils n'avaient aucune valeur face au Coran. Il nous dit, il va même nous donner un exemple, le shir. Le shir, en fait, il va nous donner un exemple par rapport à cela. Il y a en fait une parole qui est connue chez les Arabes avant, bien sûr, la venue du Coran, et cette parole-là, c'est la suivante: Al-Qatlu Anfal il-Qatl. Trois mots. Al-Qatlu Anfa lil-qatl. Ça, c'est une parole en fait qui était connue et présente chez les Arabes dans la Jahiliya. Al-qatl anfa lil-qatl. On peut le traduire par le meurtre, yani anfa, yani du verbe anafa, yanfi. le meurtre en fait élimine leur meurtre. On peut le traduire comme ça, le meurtre élimine le meurtre. يقول الشيخ وقد جاء في القرآن الكريم في هذا المعنى قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة ولكم في القصاص حياة. Sourate al-Baqarah. Ça c'est aussi dans Sourate al-Baqarah qui est le verset 179. Le Coran, il est venu au niveau de la au niveau de al-ma'na al-'am, c'est-à-dire au niveau de la signification générale, il est venu avec la même signification. Mais le chien maintenant, il va nous mettre en évidence comment la part, cette parole-là, yaqul wa la taslam tilka al-jumlatu min al-khalal al-lafzi wal-ma'nawi. C'est-à-dire que le chien il nous dit en fait que cette parole qui était utilisée, al-qatlu anfa lil-qatl, c'est une parole qui contient al-khalal, qui contient en fait des défauts, que ce soit au niveau de la signification et que ce soit au niveau en fait du littéral, au niveau de la signification, au niveau du littéral. Il dit فالخلل اللفظي في كوني مكونة من ثلاث كلمات وواحدة منها مكررة. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit le shir, dans un premier temps, le défaut qui se trouve au niveau littéral. Il dit que ce terme ou que la phrase utilisée, elle comprend simplement trois mots et que dans ces trois mots, il y a deux mots qui sont répétés. Et ça en fait, c'est un aïb au niveau de la langue arabe. La deuxième chose, c'est qu'ils disent al-qatl anfa lil-qatl, le meurtre élimine le meurtre. Il explique le shir en fait que c'est pas tous les meurtres qui sont la cause de l'élimination des autres meurtres. Les autres meurtres sont pas tous les meurtres. Bien au contraire, il y a des meurtres qui vont être la cause de la multiplication en fait du meurtre ou al-iqtital, du combat entre les gens. C'est-à-dire les gens au tir de là vont se combattre entre eux et donc il va advenir encore plus de meurtres. Et donc ça c'est au niveau de la signification, c'est le défaut au niveau qu'il y a au niveau de la signification. Par contre dans le Coran, walakum fil qisas hayatun. Walakum fil qisas hayatun. Al qisas, vous savez que c'est en fait le talion, la loi du talion, al qisas. Wa hayatun, hayatun bien sûr, c'est quoi? C'est la vie. Donc on voit ici subhanallah deux opposés, le meurtre. C'est-à-dire ici, bien sûr, ce n'est pas le meurtre qui est employé, le terme le meurtre, bien sûr, al-qatl, mais c'est le terme al-qisas, qui est bien sûr qui est encore plus vaste. Et comme vous savez, la loi du talion, nafs bin nafs, c'est-à-dire l'âme par l'âme, l'âme par l'âme. Et le terme qui est employé ici dans le Coran, voilà comme fil qisas et hayatun, dans un premier temps, il y a, comme je vous ai dit, deux termes qui vont être opposés. Donc ce ne sont pas les deux mêmes termes, comme il est employé dans leur phrase ici, al-qatl ou anfa lil-qatl. Al-qisas, hayatun. C'est-à-dire il y a une vie, subhanallah. Regardez comme le Coran il explique en fait cette hikmah, il explique en fait cette sagesse à travers combien de mots, à travers, si on compte le waw al-fi, à travers cinq mots. Et bien sûr les mots ils ne sont pas répétés comme dans l'exemple qu'on a donné. Bien au contraire ici, il y a même carrément deux termes qui sont en apparence opposés. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Il dit فقد جاء فيها ذكر القصاص والذي يكون في نفي القتل وحصول الحياة. C'est-à-dire les gens, il nous explique le shir, c'est-à-dire les gens, lorsqu'ils savent que la loi du talion est appliquée dans un pays, alors automatiquement qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, au moment où elle va vouloir tuer, elle va réfléchir deux fois. C'est-à-dire que si je tue la personne, alors moi je me ferai tuer. C'est-à-dire je vais passer devant le tribunal et on va tout simplement سنحكم عليها بالقتل, c'est-à-dire qu'on va me juger et qu'on va tout simplement me tuer. Et ça, c'est la loi du talion. Et donc, à partir de là, يقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة حياتون. C'est-à-dire que le fait d'appliquer la loi du talion, ou comme fruit de cela, le fruit de cette application, ça va être bien sûr la protection de la vie. C'est-à-dire les gens vont protéger leur vie lorsque, dans leur société, la loi du talion sera appliquée. Donc on voit ici comment le Coran, il a exprimé ce qu'ont voulu exprimer ces Arabes, mais eux, ils ont tout simplement venu avec un défaut qui est au niveau du littéral, au niveau de la signification. Tout simplement parce que le terme « al-qatl », ça veut dire « tuer », c'est-à-dire que simplement une personne te tue, alors toi tu viens vers elle et tu la tues directement. C'est pas bien sûr comme la loi du talion, où bien sûr au moment où la personne est tuée, elle va être prise, elle va passer devant un tribunal, et ensuite on va bien sûr le juger comme étant un tueur et donc le tuer. Sinon, si tous les gens tuaient à chaque fois qu'une personne tuerait une personne, alors la personne viendrait directement et la tuer, ce serait bien sûr bilhaq, ce serait encore pire. C'est-à-dire que les gens, ça deviendrait une tuerie complète. Donc on voit ici l'expression qui est prise par le Coran, les termes qui sont employés et qui sont en fait parfaits pour exprimer ce qu'il exprime. C'est-à-dire que dans la loi du talion et dans le fait de rendre la justice par rapport au meurtre, il y a en fait la présence de la vie. Il y a la présence de la vie. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.